à chacun. Alors j'ai aussi le plaisir de redire, ça c'est des petites habitudes, hein, à l'église, quand on est rue Sadi Carnot, on dit voilà, c'est le moment, on va laisser partir les enfants. Alors j'ai envoyé un lien internet pour un petit culte des enfants, une petite vidéo donc fait par Tristan, hein, le pasteur de Béziers, là où souvent nos jeunes vont. Donc pour les parents qui le veulent, vous avez le lien sur votre smartphone, ils peuvent passer ce temps, 20 minutes, avec un enseignement adapté. Donc n'hésitez pas. Et puis pour les moins enfants, eh bien on va aller dans l'épître de Jacques ce matin. Est-ce qu'on a envie d'être mûr? Voilà une épître qu'on aborde sous cette facette de la maturité. Est-ce qu'on veut rester des... Je ne sais pas quel mot employer, je ne sais pas si des branquignoles, c'est grossier ou c'est pas grossier ça, des branquignoles? C'est pas grossier, je crois. Hein. Et c'est un petit peu le mot qui me vient, tu vois, c'est des branquignoles de chrétiens, quoi. Hein. Des chrétiens, c'est du bricolage, tu vois. Ou alors, est-ce qu'on veut être des chrétiens solides, fondés, ancrés, sérieux, que Dieu peut prendre au sérieux, que le monde peut prendre au sérieux. On a aussi un témoignage de la puissance de Dieu, de la puissance de transformation de Christ dans notre vie. Est-ce que le monde peut nous prendre au sérieux? Pour cela, nous avons besoin de grandir, de nous solidifier, de mûrir. Alors, on a vu quatre objectifs de maturité qui étaient plutôt des objectifs intérieurs. Être mûr sur l'épreuve qui survient, les difficultés, la souffrance. Être mûr à cet égard. Nous avons vu être mûr sur la question de la sagesse. On sait les bonnes choses à mettre en œuvre dans notre vie, indiquées par la parole de Dieu, mais on ne trouve pas toujours en nous-mêmes les forces, la capacité, le déclic pour les mettre en œuvre. On manque de sagesse, on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Si on manque de sagesse, il faut le reconnaître et demander à Dieu qui la donne. Être mûr à cet égard. Être mûr par rapport à nos capacités ou incapacités, nos propres forces ou nos faiblesses. Ne pas compter sur nos forces, mais compter sur le Seigneur. Ne pas nous focaliser sur nos faiblesses et les mettre en excuse pour ne pas avancer. Mais compter sur la force de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait Paul. Et puis, nous avons vu la maturité face au péché, face à la tentation. Résolument, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons être mûrs concernant ce que Dieu appelle le péché. Être sérieux avec ça. Et puis, la dernière fois, nous avons abordé une cinquième facette de la maturité qui, cette fois-ci, ne nous concerne plus dans une démarche intérieure, mais c'était la maturité face à la parole de Dieu. Voilà, ça nous décentre de nous pour nous orienter sur cette parole vivante de Dieu qui nous a régénérés. Et la maturité consistait en particulier à être prompt à écouter plutôt que de nous irriter et à mettre la parole en pratique plutôt qu'à nous borner juste à l'écouter et puis on l'oublie. Alors justement, mettre la parole en pratique, nous arrivons maintenant dans une section de l'épître de Jacques très pratique. Et maintenant, nous allons avoir bien des thématiques où la maturité du chrétien se traduit en actes. Ce matin, on va voir un aspect, mais dans cette introduction, je vous invite donc à prendre l'épître de Jacques au chapitre 1 et la fin du chapitre est en quelque sorte une petite section qui introduit et résume tout ce qui va être détaillé dans les chapitres suivants. C'est un grand raccourci, mais un grand résumé qui nous dit, verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, en quelque sorte, il nous dit là au verset 26, bon ben voilà, si tu crois être un chrétien, si tu crois être en règle avec le Seigneur, voilà, t'es content, hein, t'es content de toi, ça va, tu es sauvé, tu es dans une église évangélique, donc tout ça, là, c'est bien. Tu crois que tout va bien avec Dieu pour toi. Le seul problème, c'est que finalement, tu trompes ton cœur parce que ça ne se traduit pas en acte, en vrai acte. Ta foi en Jésus-Christ, qui est appelé ici religion au sens vraiment de ce qui nous relie à Dieu, eh bien, il dit, ta foi chrétienne, ta religion, ça sert à rien du tout, c'est vain, c'est du vent. Et là, nous sommes alertés dans l'optique de la maturité, à ce que justement, nous ne soyons pas ces fameux branquignols que j'ai évoqués en introduction. On peut l'être. Et comme Jésus ne l'a jamais caché, il a toujours dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Eh bien, la religion, une vraie religion, c'est-à-dire cette relation à Dieu, se traduit en actes. Et ici, deux pistes qui annoncent la suite sont données. Cette religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Un raccourci, résumé rapide, qui nous oriente sur la piste. La première piste, c'est la piste de l'amour. Cette relation aux autres, spécifiquement ici, envers ceux qui sont fragilisés. Cet amour qui tend la main, qui donne, qui se donne envers celui qui est dans le besoin. Un exemple ici, les orphelins et les veuves. L'amour en action. On va en parler juste dans ce qui suit, c'est le chapitre 2, ça va être notre sujet tout à l'heure. Et puis la deuxième piste qui résume et qui dit, voilà, tu n'es pas un chrétien de paille. Quand tu as l'amour et quand tu as la pureté, se préserver des souillures du monde. Un cœur et une conduite qui veillent à rester dans la pureté à tous égards. Si on veut un grand résumé rapide de ce que le Seigneur attend d'un chrétien bien armé, bien solide, bien ancré, C'est cet amour qui visite, qui va et qui œuvre envers ceux qui sont dans le besoin, de manière générale, et puis qui veille sur sa pureté personnelle. Ça va être une annonce pour les chapitres à venir. Donc maintenant, notre maturité va concerner le fait de dire la maturité du chrétien se traduit en actes. Et pendant plusieurs prédications, donc qu'on aura au fur et à mesure, ça sera des focus, à travers l'épître de Jacques, sur un acte en particulier, un aspect où on doit être mûr. Ici, ce matin, ça va concerner la maturité de notre amour. Et surtout la maturité de notre amour dans la manière de considérer autrui. La maturité de l'amour dans le regard qu'on porte sur ce qu'on a en face de nous. Alors nous allons lire du verset 1 à 13 dans ce chapitre 2. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avez dit, c'est le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez. Et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alors, ce matin, nous considérons le fait que notre amour, c'est-à-dire l'amour, c'est la relation à l'autre. L'amour, c'est la relation bonne à l'autre. C'est donc une relation qui construit l'autre. Et dans cette relation, eh bien, il y a la manière dont on regarde l'autre, le regard qu'on pose sur lui, comment on le considère ou comment on le déconsidère. Et nous avons une habitude de donner rapidement, ou pas rapidement d'ailleurs, il y a le premier regard et puis il y a le second regard. Nous avons l'habitude de donner une certaine valeur aux gens. Alors il y a la valeur qu'on va leur donner juste comme ça en les rencontrant pour la première fois. comme l'exemple qui nous est donné ici, il y en a un, il a un anneau d'or au doigt, il a un bel habit. Bon, eh ben, tout de suite, on va le considérer comme quelqu'un de valeur, puisque la valeur est dans son compte en banque. Et puis l'autre, il est misérablement vêtu, et donc tout de suite, notre appréciation de cette personne, ben, c'est le pauvre gars, quoi, et puis on va le déconsidérer. Alors dans une société peut-être où on avait l'habitude d'estimer que la richesse était une récompense de la part de Dieu pour les bonnes gens et la pauvreté une punition envers ceux qui le méritent quelque part, hein, bénédiction matérielle pour ceux qui le méritent, et puis difficulté matérielle pour ceux qui le méritent. Quand on a l'habitude de penser comme ça, le jugement de valeur ne s'arrête pas au portefeuille, au fait qu'il soit pauvre ou riche, ça s'étend aussi à la spiritualité de la personne. Vous vous souvenez des disciples qui ont dit à l'aveugle, à propos de l'aveugle, Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Bon ben voilà, c'est un petit peu ça. C'est sur le regard que les disciples posent, c'est tiens, ils voient un aveugle, et plutôt que de dire, oh le pauvre gars, il est né aveugle, il a souffert, c'est difficile. Non, le regard qui est posé, c'est bah, dis donc, là il y en a un qui a péché, mais grave, quoi. Alors, on ne sait pas si c'est lui. Alors, je ne sais pas comment il aurait péché d'ailleurs, puisqu'il était aveugle-né, hein, dans le ventre. Et puis, ou alors ses parents. Alors, c'est vrai que on se moque un petit peu des disciples comme ça, mais on fait pareil. On a tous des regards de favoritisme envers les gens qu'on côtoie. Et dans le favoritisme, il y a vraiment cette idée de valeur qu'on va donner aux gens. Il y a les gens qu'on apprécie, qu'on aime bien, pas juste parce qu'on a des atomes crochus, mais parce que on les trouve plein d'intérêts, intéressants. On trouve, voilà, il y a tel ou tel aspect de leur vie qui font que on leur donne une certaine valeur et donc une certaine considération. Et ça se suit en acte. C'est ça la chose. C'est pas juste que on a vu le riche avec son anneau d'or et son truc, son manteau, on se dit, tiens, bon, ben, quelqu'un qui a de la valeur là. Ça se suit avec un acte, on le fait asseoir à la place d'honneur. Et puis le pauvre, on dit, bah, écoute, tu restes debout. Bah, c'est un petit peu pareil. Il y a différents critères dans notre société et dans nos cœurs qui font qu'on va donner de la valeur aux gens. C'est vrai, il y a l'aspect un petit peu de la réussite matérielle. Malgré nous, c'est très curieux, les gens qui ont une certaine réussite matérielle, on va faire plus de salam alek, plus d'honneur, plus de... C'est quelqu'un, quoi. Et quelque part, l'argent qu'ils ont nous impressionne quand même et font que on va leur associer quelque part, sauf si vraiment ils se conduisent très très mal. Mais on va leur associer une certaine valeur intérieure. Curieux comment la valeur extérieure aboutit à prêter aux gens une valeur intérieure. C'est surprenant, mais c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Puis, il y a le contraire aussi, des gens beaucoup plus humbles qui dans la vie, eh ben, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi. Ça trime, c'est... Eh bien, on va leur associer en général une valeur intérieure qui n'est pas flatteuse. Et pourquoi? Est-ce que l'un est forcément synonyme de l'autre? Il n'y a pas que la question des richesses. Regardez comment notre société fonctionne sur la question de la beauté ou de la laideur. C'est incroyable comment déjà quand on est au collège, au lycée, étudiant, et puis dans la vie, on va mettre presque porter comme des héros les gens qui sont beaux. Les gens qui sont beaux, on va être en admiration, on va être flatté s'ils sont nos amis. Puis les gens qui sont laids, eh bien la vie est difficile pour eux. Et on donne une valeur quelque part relationnelle, une valeur relationnelle qui est basée sur ah, cette personne est jolie, elle est belle. Et puis on donne une valeur relationnelle négative à d'autres personnes qui sont moches. Alors ça, beaucoup d'enfants ou d'adolescents en souffrent énormément. Mais je ne suis pas sûr que ça s'arrête toujours à l'adolescence. Ça peut être aussi la musculature des garçons. Il y a les grands guerriers, quoi, bien musclés, bien bâtis. Et ça, c'est des grands héros, quoi. Mais c'est pas synonyme de valeur intérieure pour autant. Il y a l'intelligence. Quelqu'un avec un quotient intellectuel élevé, alors là tout de suite, bah attendez, c'est synonyme de valeur intérieure. Depuis quand? Une intelligence hors norme est-elle synonyme d'une valeur du cœur hors norme? Ça n'a rien à voir. On peut être un grand génie et un très grand impie. Et quelqu'un qui a un cœur inique. Et puis on peut être très très simple intellectuellement, mais avoir une valeur intérieure extraordinaire. Mais nous, nous avons du mal à porter ce regard-là. Nous allons favoriser, hein, c'est vraiment une question de favoritisme. Dans nos relations, on va privilégier dans nos relations des relations avec des gens plutôt reconnus intellectuellement si possible, si on y a accès, reconnus financièrement si on y a accès, reconnus physiquement. C'est toujours mieux que d'avoir à ses côtés ou à sa table le Mephibosheth boiteux des deux pieds, quoi. Parce qu'on n'a pas toujours de nappe suffisamment longue pour couvrir les jambes malades. Je donne un exemple biblique. Alors, le Seigneur veut vraiment nous parler ici de la discrimination. La discrimination. Discrimination, ça c'est un mot duquel on est très familier aujourd'hui. Discrimination positive dans le cas du riche de notre passage, discrimination négative dans le cas du pauvre. Et le Seigneur nous dit, l'amour, eh bien, ne discrimine pas les gens. Et quand on le fait, c'est toujours à la honte de Dieu. Et à la nôtre. À la honte de Dieu parce que nous portons son image, parce que nous reflétons sa manière d'aimer, et regardez comment Jésus a agi sur la terre. Jésus n'est pas allé vers les puissants et les riches et les intelligents avec une sorte de favoritisme et de discrimination, mais il a accueilli toutes sortes de personnes, il a pu dîner chez des gens riches. Il a pu être hébergé chez des gens simples. Il est allé voir un Zachée. Il est allé voir un Matthieu. Il est allé voir, rencontrer la femme samaritaine. Il est allé voir les lépreux, les aveugles. Et j'oublie certainement beaucoup d'exemples où Jésus n'a pas fait de discrimination, mais a donné de la valeur aux gens, tout simplement parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et qu'ils ont de la valeur pour Dieu. À l'époque, dans cette société, en particulier, les femmes et les enfants étaient déconsidérés. Qu'a fait Jésus? Il a pris les enfants sur ses genoux. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Pas habituel comme comportement. Jésus n'a pas mis à l'écart les enfants. Et y compris dans notre société française, il a fallu très longtemps pour donner de la valeur aux enfants. Il a fallu attendre Françoise Dolto, par exemple. Que dire des femmes? Jésus a toujours parlé et interagi avec considération et respect pour les femmes, ce qui n'était pas forcément habituel et ancré dans les habitudes. Voilà, Jésus n'a pas fait de favoritisme, de discrimination dans son amour, dans cette loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est tout le monde, ton prochain. Ton prochain, c'est pas que lui ou que lui, c'est lui et lui et lui et lui, tu les aimes sans favoritisme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autant le boiteux, tu l'aimes comme toi-même, autant le médaillé olympique, tu l'aimes comme toi-même si tu le rencontres. Et c'est une question importante qui est abordée ici, vraiment, parce que de la même manière que nous n'échapperons jamais aux épreuves et aux événements de la même vie, eh ben nous n'échapperons jamais aux gens, à moins d'être Robinson Crusoe. Il y a des gens qui nous entourent et forcément nous portons un regard sur eux. Et ce regard doit être celui de Jésus. Un amour qui ne fait pas de favoritisme. Comment est-ce, quel regard, quelle valeur je donne aux gens qui sont en face de moi? Alors bien sûr, quand on fait du favoritisme, on enrobe tout cela dans toutes sortes de justifications, d'excuses, de raisonnements. Mais à la fin, il y a un jugement de valeur. Valeur en positif ou en négatif, et ça induit la qualité concrète de notre relation envers cette personne, ça induit des actions ou des absences d'actions. Ça a forcément des conséquences. Alors, Jacques montre que justement nos critères de jugement, finalement, ils sont mal fondés, mal basés. Il dit là, c'est basé sur la richesse, etc. On peut les baser sur bien d'autres choses, mais ils sont toujours hypothétiques. Donc, injustes. C'est toujours à Dieu et jamais à nous que revient la charge de juger la valeur de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a le jugement. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres et à chacun la louange qui lui sera due. Mais nous, qui sommes-nous pour savoir la valeur de quelqu'un? Que connaissons-nous de son histoire? Que connaissons-nous de son passé? Que connaissons-nous de ses blessures? Rien. Ou petit à petit. Et quelle place donnons-nous justement à la miséricorde? Parce que nous pouvons même avoir affaire à des personnes où on peut trouver des raisons presque de déconsidérer. Regardez la femme adultère que Jésus rencontre. N'a-t-il pas là en face de lui une vraie raison de la discriminer? ne le fait pas, parce qu'il voit au-delà, il voit tellement au-delà que il dit quelque chose d'un petit peu énigmatique, hein. Il dit, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Jésus voit au-delà de la situation d'adultère dans laquelle cette femme est. Il voit l'ensemble de sa vie. On ne sait pas plus, mais on sait que Jésus a ce regard de miséricorde que l'épître de Jacques nous invite à avoir au verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement, c'est aussi le jugement, c'est dans le grec, hein, c'est vraiment le, c'est justement le regard qu'on porte sur quelqu'un, c'est cette, ce discernement, cette discrimination, ce partage. On essaye de sonder et de donner une conclusion sur cette personne. C'est ça. Jugement, c'est aboutir à une conclusion de valeur. Eh bien, il nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Préférons, frères et sœurs, avoir de la miséricorde, faire miséricorde, avoir ce regard qui dit, je ne sais pas ce que cette personne en face de moi a vécu, quelle éducation elle a reçue. Qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, quoi qu'il en soit, même si à bien des égards, j'ai envie de ne pas la mettre dans mes favoris, hein, vous savez, comme sur Internet, on met, où les gens on met des, en favoris. J'ai pas envie de la mettre dans mes favoris, mais je vais avoir cet amour qui vient du cœur du Seigneur. Et je vais choisir cette attitude de miséricorde qui triomphe du jugement. Philippiens 2, verset 3 nous invite, c'est un verset que je cite souvent, vous connaissez certainement, mais il est bon de le rappeler. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous sommes typiquement dans quelle est la valeur de l'autre? Oh, certainement plus que moi. Alors, vous allez prendre chacun dans l'église et vous allez vous dire, eh bien, telle personne, elle a certainement plus de valeur intérieure que moi, en tant que pilote de sa vie devant Dieu. Et puis, si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est au Seigneur d'en juger. Moi, j'en sais rien. J'ai l'humilité de dire, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, je ne sais pas par quoi elle a traversé, et je ne sais pas comment moi j'aurais réagi à sa place. Vraiment. J'aurais eu la même vie, les mêmes épreuves, les mêmes situations. Est-ce que j'aurais mieux tenu devant Dieu? Est-ce que j'aurais une valeur intérieure beaucoup plus noble? Ben, j'en sais rien. Il est préférable de d'estimer qu'on aurait moins bien fait. Ça, c'est l'humilité. Et de dire, ben, cette personne, elle en est là où elle en est. Certainement que peut-être elle a piloté mieux que ce que je n'aurais fait. Quoi qu'il en soit, je me refuse à ce que mon regard la discrimine négativement et agisse en conséquence. C'est ça la chose. On est toujours dans cette optique de pas dire, tiens, il y a le pauvre qui est entré dans mon assemblée, ben vas-y, écoute, ben reste debout, toi. Non, je vais pas forcément agir comme ça. En plus, Et c'est ça le drame, nous dit Jacques. Hein. Il dit, c'est quand même incroyable. Dans votre favoritisme, dans votre appréciation des gens, le pire, c'est que vous cajolez des gens qui n'ont pas besoin de l'être parce qu'ils sont déjà bien gâtés par la vie. Voyez, on fait des salamalecs aux personnes riches, belles et intelligentes. Elles sont déjà belles, riches et intelligentes. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on les cajole davantage? Le riche qui rentre dans l'assemblée, on lui dit, mais toi, c'est place d'honneur. Alors là, c'est fauteuil rembourré, avec Coca-Cola, bien frais. Puis le pauvre, qui est déjà blessé par la vie, qui est déjà malmené, qui est déjà affligé. On va lui dire, ben toi, tu vas rester debout, mon gars. C'est-à-dire qu'on va cajoler ceux qui sont déjà gâtés par la vie, et puis on va continuer d'affliger ceux qui sont déjà affligés. C'est incroyable. Et on va donc délaisser les personnes déjà avec peu de moyens, à tout niveau, hein, j'entends. Et un deuxième truc qui est incroyable, nous dit Jacques, il nous dit, et en plus le pire, c'est que c'est souvent les gens que tu cajoles qui sont ceux qui, eux, ne te loupent pas. Il dit, c'est pas les riches qui vous traînent devant les tribunaux, là. Attends, c'est pas les pauvres, hein, qui te traînent devant les tribunaux. Tu sais qui c'est qui te maltraite? C'est ceux que toi tu cajoles. Ah, les personnes belles qu'on monte en égérie, bon, c'est les premières qui vont te dire que toi, tu as des boutons sur le visage et que tu ressembles à un thon, quoi. Les personnes riches sont les premières qui vont te critiquer et minimiser avec une petite pique bien. Alors attention, hein, Jacques fait une généralité ici. C'est une généralité. C'est pas juste à 100%. Mais quand même, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que quelque part, des personnes que la vie a gâtées ne sont pas forcément des gens qui vont gâter des autres. Comprenez ça? Les gens gâtés par l'existence et par la vie, eh bien, vont plutôt avoir une attitude un petit peu intransigeante et sans miséricorde, alors que des gens pauvres et affligés, qui ont vécu des difficultés, sont souvent ceux-là même qui vont vous accueillir les bras ouverts. C'est une vérité un petit peu générale qui souffre des exceptions, mais il y a du vrai là-dedans. Alors, il y a pas de sens à ça. Dieu nous montre ici que nous n'allons pas avoir un regard de discrimination. Ça veut dire non, pas non plus pour les riches, attention, hein. On ne va pas discriminer les riches parce qu'ils sont riches. Ou les beaux parce qu'ils sont beaux et les intelligents parce qu'ils sont intelligents. Mais on va donner valeur égale dans la pensée de Dieu à l'un comme à l'autre. Et nous terminons donc par ce que cette épître appelle ici, alors c'est la seule fois où c'est appelé comme ça, je crois, la loi royale. La loi royale du verset 8, ce fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'on doit accomplir. Dans le regard qu'on porte sur l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons besoin de porter sur l'autre le regard qu'on porte donc sur nous-mêmes. La loi royale du vrai amour. Peut-être qu'on pourrait tenter de le mettre de côté en disant, oh là là, c'est la loi royale. Autrement dit, c'est le top du top, c'est le summum du summum. Quand je serai un chrétien vraiment bon et ancré, j'arriverai peut-être à mettre en œuvre la loi royale. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Moi, je me contente de ne pas tuer et de ne pas commettre adultère. C'est le verset 11. Et c'est suffisant. Moi, j'en suis pas encore à l'amour. Hein, on pourrait se dire ça, c'est, oh là là, c'est la loi royale, sous-entendu, il n'y a que l'élite. Il n'y a que l'élite des chrétiens qui peut le mettre en œuvre dans sa vie. Et on va pas raisonner comme ça. Et je pense que les Juifs avaient fini par raisonner comme ça. Hein, en disant, c'est vraiment la loi royale. Alors, quand tu es un grand saint, un grand prophète, un grand tout ce que tu veux, ça y est, enfin, cette loi royale, on n'oublie pas, hein, je ne sais plus qui c'était, en tout cas ce gars qui avait dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, bah, tu aimeras ton Dieu, ton cœur, ta force. Et le second qui lui est semblable, c'est ton prochain comme toi-même. Et le gars lui répond, tu as bien répondu. Jésus avait juste dit non. Incroyable. Et oui, c'était la loi, voilà. Mais justement, peut-être que c'était devenu une excuse pour ne pas le mettre en œuvre dans sa vie. Ben, Jésus, il inverse la tendance et il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ici, Jacques dit, écoute, il n'y a pas des choses, des commandements de Dieu auxquels tu peux obéir, faire ton petit tri. Alors lui, je prends, lui, je prends, lui, je crois que j'en suis là. Lui, par contre, on verra l'an prochain ou dans 10 ans, où il faudrait que je sois un peu plus saint. Et puis la loi royale, eh ben, écoute, peut-être qu'un jour, si vraiment. Mais pour l'instant, c'est pas ma portée. Il dit non, non. Quand tu pèches contre un seul commandement, tu deviens transgresseur de tous. On ne fait pas son petit tri. Et la loi royale doit être majeure, prioritaire dans notre vie. Et dans la manière pratique dont Jacques a de parler aux chrétiens ici, c'est par ça qu'il commence. Dans tous les, hein, on a dit la maturité du chrétien se traduit en actes. Ça commence par l'amour en exercice et dans le regard qu'on porte sur autrui, dans nos préférences, dans les gens qu'on met de côté, dans les gens qu'on méprise. Et nous sommes invités eh bien, à délaisser ce regard pour adopter celui du Seigneur Jésus. Et il nous dit, tu peux mettre la loi royale en œuvre, tu sais pourquoi? Parce que tu peux parler et agir, verset 12, comme devant être jugé par une loi de liberté. La loi de la liberté, on l'avait déjà mentionné à propos de la parole de Dieu au chapitre 1, Jacques chapitre 1, au verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'était à propos de la Bible, hein, et de l'Écriture, de la parole de Dieu. Il dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et donc, nous serons jugés par cette loi de la liberté. Pourquoi une loi de la liberté? Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché pour lui obéir. Le Seigneur Jésus Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Il nous a donné une nouvelle nature, nous sommes des nouvelles créatures, et la loi de Dieu dans son ensemble, eh bien Jésus-Christ peut la réaliser en nous. Nous sommes libres pour vivre à la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus sous la coupe et l'enfermement du péché. La force du péché qui enferme, eh bien le Seigneur a mis une clé, a tourné la clé dans la serrure de notre geôle et la porte est ouverte. À nous de sortir de la cellule, mais la porte est ouverte. La loi de la liberté. Et voilà pourquoi nous pouvons vivre en accomplissant la loi royale. Et pour nous, au niveau de la maturité, nous avons vraiment besoin de réaliser, parce que nous avons plein de gens autour de nous, parce que nous ne sommes pas des Robinson Crusoe isolés et tout seuls, même dans le confinement, eh bien nous avons besoin d'une relation qui soit réellement constructive, et ça commence par le regard qu'on porte sur l'autre. Un regard d'accueil, un regard d'amour, un regard de miséricorde, un regard qui ne commence pas à juger et à tirer des conclusions, un regard qui ne va pas avoir ses favoris, ses catégories de favoris, et qui délaisse les autres. Alors que ça puisse nous interroger dans nos relations, à commencer par nous dans l'Église. Qui est-ce que dans l'Église j'ai une tendance à mettre de côté, à déconsidérer, quelque part à presque mépriser? Eh bien, nous avons besoin de changer nos regards pour vivre à la gloire de Dieu. Et lorsque nous vivons cette loi de la liberté dans le domaine de l'amour, par exemple, qui ne discrimine pas, eh bien, nous retrouvons ce que le verset 25 du chapitre 1 nous disait. Celui-là sera heureux dans son activité. Et nous allons développer une joie relationnelle. Nous allons commencer à réellement goûter la joie des relations à l'autre, comme Jésus pouvait goûter la joie des relations lorsqu'il accueillait les enfants sur ses genoux, lorsqu'il considérait les femmes, lorsqu'il posait les yeux sur les lépreux, sur les aveugles, et tant de personnes que la société rejetait à l'extérieur ou au loin, et vers lesquelles lui, il est allé. Le Seigneur vivait une joie des relations. Quand on fait des discriminations, on ne vit pas une, on vit une fausse joie des relations, pas une vraie joie en Dieu. Alors que nous puissions en cela mûrir. C'est un cheminement. Hein. La maturité, ce n'est pas le coup de baguette magique qui fait que ça change. Bam. La maturité, c'est comme une plante. C'est petit à petit. C'est un cheminement. Mais soyons certains de nous engager dans ce chemin résolument en disant au Seigneur, Seigneur, je veux m'engager là-dedans. Seigneur, je veux changer mon regard sur ceux qui m'entourent et que je mets de côté un petit peu pour des motifs qui finalement sont hypothétiques, qui finalement sont sans miséricorde. Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas accès à mon cœur ou à ma vie ou à ma relation. Parce qu'en fait, quelque part au fond de moi, j'ai choisi de ne pas leur donner vraiment accès. Je pêche en faisant cela. Et nous avons vraiment besoin de relire le verset 9. Hein. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. C'est dit noir sur blanc. Alors que le Seigneur nous aide pour cela. Prions. Merci Seigneur parce que tu n'as pas fait de favoritisme. Et du coup, tu t'es approché de moi. Merci parce que si tu avais fait du favoritisme, tu ne l'aurais pas fait. Tu m'aurais laissé de côté. Merci parce que tu t'es approché de chacun de nous. Toi, tu vois au-delà des apparences. Tu vois au-delà du vernis de ceux qui sont favorisés extérieurement. Et tu vois au-delà de la crasse de ceux qui semblent défavorisés extérieurement. Toi, tu vois au-delà de ça et tu t'approches de chacun et tu accueilles. Et tu veux que nous en fassions de même. Aide-nous, Seigneur, à ce moment. Au nom de Jésus. Amen.